Les cours du Collège de France, philosophie des sciences biologiques et médicales, Anne Fagot-Largeau.
Vous vous souvenez que la leçon d'aujourd'hui dure seulement 50 minutes en raison de la leçon inaugurale de M. Philippe Descola qui inaugure sa chaire d'anthropologie de la nature à 18h dans le Grand Amphi. Pour cette raison, le document du jour est plus court que d'habitude, un côté de page. Je vous rappelle aussi le calendrier des leçons à venir. Les leçons s'arrêtent pendant 4 semaines. Et je recommence le 26 avril avec de nouveau un cours de seulement 1 heure en raison d'une autre leçon inaugurale qui sera celle de M. Artavanis Tsakonas qui succède à Mme Ledouarin et qui inaugure la chaire de biologie et génétique du développement. Donc le 26 avril, ce sera aussi un cours 1 heure et comme aujourd'hui, je traiterai d'un exemple. L'exemple que j'ai choisi pour illustrer ce que je veux montrer aujourd'hui, à savoir l'émergence de nouveaux concepts, est l'exemple de ce syndrome POEMS, dont je pense que vous ne le connaissez guère. Syndrome qui a émergé il y a une trentaine d'années. Et qui n'a pas encore trouvé son statut de maladie, qui se trouve dans un état intermédiaire entre le syndrome et l'entité diagnostique proprement dite. Et comme il est dans un état intermédiaire, je l'ai encadré entre 2 autres exemples, dont un est l'exemple d'une maladie jadis très fréquente et extrêmement connue et dont on a récemment raté le diagnostic, ça a fait l'objet d'une publication dans la presse médicale, parce que cette maladie est devenue si rare qu'on n'y pense pas. D'autre part, le syndrome d'immunodéficience acquise, par comparaison avec le syndrome POEMS, est devenu en l'espace de 2 ou 3 ans, 80, 81, 82, une maladie, une entité diagnostique sans discussion. Donc j'essaye d'établir un contraste entre le syndrome en train de s'autonomiser, celui qui était autonomisé et qu'on a oublié, et celui qui s'est autonomisé sans ambiguïté. C'est ce purpura anachronique mentionné dans ma 3e référence du point 1 qui constitue mon premier petit exemple pour mettre en valeur l'exemple plus grand du POEMS. Il a fait l'objet d'une publication dans le concours médical de cette semaine et j'ai pensé que l'exemple est éclairant. L'histoire est la suivante. Il s'agit d'une femme de 86 ans qui vit en maison de retraite et qui, parce qu'elle présente depuis quelque temps des ecchymoses des bras et des jambes, est envoyée par les directeurs de la maison de retraite à l'hôpital. À l'hôpital, on constate, en termes savants, qu'elle présente un purpura. Le purpura, c'est le fait que le sang passe hors des vaisseaux et fait des taches sous la peau et donne des ecchymoses. Ce purpura est grave. Dans le cas de cette dame, il est infiltré, il est douloureux et il s'étend de jour en jour. Cette personne se plaint en même temps d'avoir des douleurs dans les articulations. Elle a un petit syndrome neurologique et au bout de 3 ou 4 jours d'hôpital, elle présente sur tout le corps de volumineux hématomes, c'est-à-dire son purpura s'étend sur pratiquement tout le corps. Les examens biologiques ne montrent pas grand-chose de remarquable, sauf qu'elle a une petite anémie, ce qui n'est pas tellement étonnant puisqu'elle saigne, hein, qu'elle a une petite anémie, mais le reste du bilan est subnormal. On lui fait des biopsies cutanées pour regarder ce que c'est que ce purpura et on se livre à un exercice diagnostique compliqué évoquant toutes sortes d'hypothèses. Un purpura vasculaire, c'est-à-dire une anomalie des vaisseaux qui ferait que la paroi des vaisseaux laisse passer le sang, un purpura thrombopénique, un purpura d'une amylose. On envisage même l'hypothèse que ça puisse être psychiatrique, hein, c'est-à-dire tout dans la tête. En ne comprenant pas ce que c'est, éliminant les hypothèses l'une après l'autre, ne trouvant pas, et tout d'un coup l'interne se dit « Et si on lui faisait un dosage de vitamine C ?» On lui fait un dosage de vitamine C et on découvre que son taux de vitamine C dans le sang est complètement effondré et qu'il s'agit tout bêtement d'un scorbut. Le scorbut était il y a 2 ou 3 siècles une maladie très connue des marins qui passaient des semaines sur les bateaux et qui au bout de 5 ou 6 semaines avaient tous le scorbut en raison d'une carence en quelque chose qui a été identifié comme la carence en vitamine C. Je vous ai donné 2 références qui, si vous avez la curiosité d'y retourner, vous rappelleront les éléments de l'histoire. Au XVIIIe siècle, James Lind a fait sur un bateau britannique une expérience de thérapeutique possible du scorbut. Il avait 5 traitements différents, du vinaigre, du jus de citron, du jus d'orange et 2 autres que je ne me rappelle pas. Il a essayé chacun de ces traitements sur 2 marins. C'était un petit essai contrôlé maladroit. Et il a mis en évidence le fait que très rapidement, les marins qui recevaient du jus d'agrumes voyaient les symptômes de leur scorbut disparaître. Le scorbut ne se voit plus dans nos pays parce que nous avons pris l'habitude de manger des fruits et parce que nous sommes suffisamment riches pour nous les acheter. Mais cette personne vivant dans une maison de retraite, complètement édentée, elle n'avait plus du tout de dents, cette personne se nourrissait depuis plusieurs mois de lait de soja et de riz qui ne contiennent aucune vitamine C. Et elle présentait les symptômes du scorbut qui aurait sauté aux yeux d'un médecin d'il y a 2 siècles et qui n'ont pas sauté aux yeux parce que les médecins ne sont plus entraînés aujourd'hui à reconnaître les signes de la maladie. Vous vous souvenez que la procédure de recherche diagnostique telle que je l'ai analysée la dernière fois consiste en l'évocation de toutes les hypothèses possibles ou l'évocation d'un ensemble d'hypothèses qui soient disjointes les unes des autres, qui ne se recouvrent pas, au moins pas trop, et qui ensemble soient exhaustives. Et j'avais dit qu'une façon simple de faire que l'ensemble des hypothèses évoquées soit exhaustif, c'est d'avoir hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3, hypothèse 4, celle-là bien délimitée, et puis autre. Dans la case autre, on place habituellement, de façon au moins implicite, les maladies rares qu'on connaît, mais qui se présentent si rarement qu'il n'est pas indispensable de les avoir présentes à l'esprit à tout moment, hein, et puis d'éventuelles maladies qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas encore connues, ou des maladies qui relèvent d'un autre contexte. Le scorbut est devenu de nos jours quasiment une maladie hors contexte. Un autre exemple de maladie hors contexte, dont le diagnostic initialement a été un peu difficile à faire, c'est l'exemple de ce qui s'est produit autour des aéroports dans les pays développés lorsque le transport aérien s'est démocratisé et que les gens se sont mis à voyager beaucoup d'un pays à l'autre. Les médecins habitant des communes autour des aéroports de pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, ont vu apparaître des syndromes fébriles dont ils n'ont pas tout de suite réalisé que c'était des cas de paludisme liés à ce que les moustiques, comme les gens, prenaient les avions. Et que les personnes habitant dans les communes autour des aéroports se faisaient piquer par ces moustiques contaminants. C'est l'anophèle voyageur. La citation de James Lind que j'ai mentionnée pour illustrer mon premier point, le scorbut seul, durant la dernière guerre, a prouvé être un ennemi plus destructeur et qui a supprimé plus de vies valables que les efforts réunis des Français et des armes françaises et espagnoles. C'est une allusion, autant que je me souvienne, à la guerre de succession d'Espagne, qui était une guerre du bloc catholique franco-espagnol contre le bloc protestant avec les Britanniques. Et les magnifiques bateaux anglais, l'armada indestructible, leurs marins ont été décimés par le scorbut. Lind affirme que le scorbut a tué plus de monde que la guerre. C'était une maladie courante, c'est devenu une maladie rare. Le paludisme dans certains pays africains ou d'Extrême-Orient est une maladie très courante et tous les médecins y pensent. Ici, les médecins n'y pensaient pas. Maladie hors contexte. J'ai indiqué aussi précédemment que lorsque l'étudiant en médecine apprend les maladies, il les apprend dans le sens direct ou descendant. Il apprend le tableau de la tuberculose, du scorbut, de l'ulcère gastrique, de la méningite virale. On part de la maladie comme une entité connue, bien définie, et on énumère les signes auxquels on la reconnaît, les signes par lesquels elle se manifeste quand elle se produit. On a bien conscience en l'apprenant que ces signes sont en général inconstants, c'est-à-dire que les signes qu'on a appris dans les manuels ne se retrouvent pas toujours au moment où on examine le malade. Ces signes sont également susceptibles d'apparaître dans beaucoup d'autres maladies que la maladie qu'on va diagnostiquer. Les signes manquent de sensibilité et de spécificité. Charles Nicolle savait déjà qu'on peut attraper le typhus d'une personne qui ne présente aucun signe manifeste du typhus et qui néanmoins le porte. C'est la notion de porteur sain de la maladie. Par contre, j'ai expliqué que lorsqu'on a à faire un diagnostic, on doit raisonner en sens inverse ou en remontant. On part des signes et il faut retrouver la maladie qui se manifeste par ces signes. Il y a eu, au moment où on a élaboré les diagnostics par ordinateur, c'est-à-dire dans les années 70-80, il y a eu quelques tentatives de cliniciens pour écrire des livres pour les étudiants qui procèdent en sens inverse, c'est-à-dire qui partent des signes pour remonter au diagnostic. Il y a eu par exemple en langue française un très joli livre coordonné par Chobotsky, le spécialiste à l'Hôtel Dieu du diabète, qui avait coordonné tout un ensemble de médecins de toutes spécialités, livre qui s'intitulait « Des symptômes à la décision », et qui, à propos de toutes sortes de symptômes, que faire devant une fièvre, ou que chercher devant une fièvre, que chercher devant des démangeaisons, que chercher devant des saignements, que chercher devant une rougeur, que chercher devant tel bruit du cœur, etc. Et ce type de livre n'a pas eu beaucoup de succès. Il semble en effet que, comme méthode d'apprentissage, cette procédure inverse ne soit pas naturelle, alors que, comme gymnastique intellectuelle, lorsqu'on se trouve en présence d'un cas nouveau, elle est non seulement naturelle, mais agréable, intéressante. C'est un petit roman policier de faire un diagnostic, surtout un diagnostic difficile. Cependant, cet exercice, cette gymnastique intellectuelle peut buter devant des faits qui résistent à la procédure type que j'ai décrite et qui est, c'est telle hypothèse, telle autre hypothèse, telle autre hypothèse. Il arrive que le mécanisme de recherche tourne à vide parce qu'on tombe sur quelque chose qui n'est pas encore identifié, hein, ou quelque chose dont on pense que ce n'est pas encore identifié. Je passe à mon point 2 et je vous raconte l'histoire du syndrome poème. D'où nom, mais réalité beaucoup moins douce. J'ai personnellement connu une partie de cette histoire au moment où elle s'est passée, c'est-à-dire au premier début où le syndrome était en train d'émerger, au moment où c'était encore un syndrome japonais et où on a commencé d'identifier un ou deux cas en Europe. Le cas dont nous avions eu connaissance à l'hôpital Henri Mondor, où je travaillais déjà, c'était à la fin des années 70, au début des années 80, le cas était celui d'une... Alors, au moment où on a eu la connaissance du cas, on ne connaissait pas le syndrome. À l'hôpital Henri Mondor, quelques Japonais le connaissaient déjà, mais à Henri Mondor, on ne le connaissait pas. Il s'agissait d'une femme, appelons-la Natacha, pour respecter la confidentialité, qui était née en 1927 et qui, jusqu'à l'âge de 45 ans, avait eu des problèmes médicaux comme tout le monde, mais rien d'extraordinaire, une pleurésie à 25 ans, une tuberculose à 30 ans, mais diagnostiquée, traitée, guérie. Et puis, à partir de 45 ans, elle commence à présenter des signes bizarres. D'abord, un discret syndrome neurologique, c'est-à-dire que elle avait un petit peu de mal à marcher, une faiblesse dans les jambes, une absence relative de sensibilité dans les bras et dans les mains et dans les pieds, mais ne l'empêchant pas de continuer de mener sa vie quotidienne. Et puis, sa peau s'épaississait, mais comment sait-on qu'on a la peau qui s'épaissit, ou comment un médecin peut-il constater que vous avez la peau qui s'épaissit ? Elle transpirait beaucoup, elle se sentait fatiguée, mais bon. Puis, au bout de 3-4 ans, de ce mal-être, de ces signes vagues de mal-être, voilà qu'elle est hospitalisée d'urgence dans un service de gastro-entérologie à l'occasion d'une diarrhée profuse. Et le diagnostic de cette diarrhée fait problème dans le service de gastro-entérologie. On ne comprend pas pourquoi elle a une diarrhée. Il n'y a pas de germes anormaux, il n'y a pas d'hypermotricité intestinale, mais c'est aucune des maladies connues qui donne des diarrhées. Par contre, à l'occasion de cette première hospitalisation, les gastro-entérologues lui trouvent une petite insuffisance rénale, les examens biologiques, et un syndrome de Raynaud. Vous savez, les doigts qui deviennent tout froids quand on les plonge dans l'eau froide et où la circulation du sang se ralentit. Le reste de son bilan étant à peu près normal, elle ressort de l'hôpital, elle est réhospitalisée 2 mois plus tard et on lui trouve une grosse rate. Une grosse rate et des ganglions partout. Elle est opérée, on lui enlève sa rate, qui pèse 1 kg. On fait des prélèvements de ganglions à droite et à gauche, on regarde ces ganglions au microscope, normaux. Congestifs, inflammatoires, mais normaux. Elle sort de l'hôpital, 2 mois après, elle est de nouveau hospitalisée, cette fois, elle a trop de plaquettes dans le sang, son sang tend à coaguler, on lui fait une biopsie de moelle, sa moelle est normale, on lui donne des anti-agrégants plaquetteurs, je crois que cette fois-là elle s'en est tirée avec de l'aspirine d'ailleurs, et elle retourne à la maison. L'année suivante, voilà qu'elle est hospitalisée dans le service de neurologie, pour cette fois, une aggravation de son syndrome neurologique. Elle a de gros troubles moteurs des membres inférieurs. Elle a du mal à descendre les escaliers. Ses muscles sont douloureux à la pression. On lui fait toutes sortes d'examens. Ces examens montrent de petits signes de dénervation des muscles. Une vitesse de conduction nerveuse plus basse que normale. On lui fait des biopsies. On ne trouve rien de véritablement informatif qui évoque une maladie connue. On la regarde dans tous les sens. Elle a un œdème de la papille. Elle a un peu trop de protéines dans son liquide céphalorachidien, ce qui veut dire qu'on lui a aussi fait une ponction lombaire, une analyse du liquide céphalorachidien. Et à l'hyperglycémie provoquée, elle a une glycémie trop élevée. On conclut que c'est peut-être une neuropathie diabétique. Elle ressort avec un diagnostic de diabète et un traitement du diabète. L'année suivante, elle a très mal au ventre, elle est hospitalisée de nouveau, on lui trouve un gros foie et de nouveau des ganglions partout. Son cœur bat trop vite, elle a de nouveau trop de plaquettes et cette fois elle a aussi trop de globules blancs. Mais sa glycémie est normale, en fait cette fois elle n'est pas diabétique. Son uricémie est normale, la créatinine est normale, j'en passe. Les examens biologiques, en gros, sont normaux. On trouve un petit pic d'immunoglobuline, mais on ne le trouve pas de façon régulière ou permanente. Et elle continue d'avoir, et elle s'en plaint, une peau trop épaisse. Avec des vilaines rougeurs sur la peau, avec des poils en excès sur la peau, une hyperpilosité, et elle transpire toujours trop. Moi, ce sont des choses dont elle se plaint. On constate aussi, lors de cette hospitalisation-là, qu'elle a des anomalies de ses artères, elle a plusieurs sténoses de ses artères. en particulier une sténose de la carotide droite avec des épisodes de cécité transitoire de l'œil droit qu'on traite de nouveau par l'aspirine. Le diagnostic, ça ne peut plus être le diabète. Est-ce que c'est une athérosclérose ? Finalement, lors de cette hospitalisation-là, un médecin qui lit beaucoup de publications dans tous les sens tombe sur un article d'origine japonaise faisant état de 25 observations auxquelles celle-ci ressemble un peu, et le dossier de la personne mentionne qu'il pourrait s'agir d'un état décrit comme dyscrasie plasmocytaire avec polyneuropathie et endocrinopathie. C'est l'appellation japonaise traduite en anglais, retraduite en français, de ce syndrome qui commence d'émerger. On fait donc à cette patiente un bilan endocrinien. On trouve des anomalies endocriniennes qu'on n'avait pas trouvées précédemment. On lui fait un bilan de son squelette complet parce que l'article japonais fait mention de troubles squelettiques et on croit apercevoir dans son humérus gauche une zone condensée à la radio. On lui fait aussi des biopsies artérielles et on s'arrête tout de même sur le diagnostic d'artériosclérose plutôt que ce diagnostic exotique qui était encore un peu flou même dans la littérature. Suite à l'ensemble d'examens subis lors de cette hospitalisation-là, notre Natacha est très déprimée et pendant 2 ans, elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas retourner à l'hôpital. Je mentionne le fait qu'elle est déprimée parce que j'ai mentionné à propos du cas précédent, du scorbut, qu'on avait trouvé des signes psy à cette dame. Et que lorsqu'on ne sait pas, il est fréquent qu'on dise c'est psy. Puis, en 1981, Natacha est réhospitalisée parce que cette fois, elle a dans son sang une prolifération de cellules conjonctives qu'on appelle des plasmocytes et son syndrome commence à ressembler à une prolifération cancéreuse. Cette prolifération de cellules qui ne devraient pas se trouver dans le sang est traitée par un médicament qui s'appelle l'endoxan. Ce médicament n'apporte aucune amélioration. Elle ressort de l'hôpital et au mois de décembre 81, elle revient à l'hôpital. Cette fois, elle a de nouveau une grande diarrhée, mal au ventre, un syndrome neurologique grave, des œdèmes, elle est enflée de partout. On dit elle a trop de sel. On lui fait une déplétion de son sel et à ce moment-là, elle fait un arrêt cardiaque et elle y est restée. Le diagnostic de POEMS n'a été explicitement évoqué qu'à l'occasion de l'autopsie de cette personne, c'est-à-dire après son décès. Il avait été évoqué sans que le nom soit prononcé lors d'une de ses hospitalisations. Je vous ai résumé l'histoire de l'identification du syndrome sur mon document et je vous ai donné le tableau clinique du syndrome tel qu'il se retrouve dans la littérature de façon constante depuis la fin des années 70 jusqu'à maintenant, au point que, encore maintenant, lorsqu'on fait une recherche sur Internet et qu'on interroge les banques de données au sujet du POEMS syndrome, on trouve des articles dont le titre mentionne non seulement le nom syndrome POEM, mais la signification de chacun des signes. J'ai mis quelques titres d'articles dans ma liste bibliographique pour que vous puissiez contrôler ce que j'ai dit. Donc, POEMS est un sigle. P-O-E-M-S. P pour polyneuropathie, c'est-à-dire pour affection du système nerveux périphérique et du système nerveux central. O pour organomégalie, c'est-à-dire gros organes. On avait effectivement observé sur Natacha un gros foie, une grosse rate, de gros ganglions. E pour endocrinopathie, les personnes, les cas décrits dans la littérature de POEMS syndrome sont des cas de personnes qui ont en général une défaillance gonadique, chez les femmes une aménorrhée, chez les hommes une impuissance, très souvent une hypothyroïdie, très souvent aussi un diabète. Un diabète ou un syndrome plus ou moins diabétique. M pour M-protéine. Cette maladie est souvent associée à ou caractérisée par des zones de sclérose dans les os, zones qui sont colonisées par des plasmocytes, des cellules du tissu conjonctif, et par la circulation dans le sang d'immunoglobulines, c'est-à-dire de molécules de l'immunité en excès, d'immunoglobulines M à chaîne légère lambda, qui ne sont pas constamment détectables, mais qui apparaissent, disparaissent de façon fugitive. S pour skin, la peau, changement de la peau qui est trop pigmentée, trop épaisse, avec trop de poils qui poussent dessus, et transpiration, hyperhidrose, télangiectasie, rougeur de la peau. Vous pouvez vous-même vous livrer à une recherche sur Internet concernant ce syndrome. Cette recherche est intéressante dans la mesure où on constate à travers les 20 et quelques années au cours desquelles ce syndrome est identifié, qu'il y a chaque année des publications, chaque année quelques cas nouveaux observés dans le monde. Les premiers cas l'ont été en Extrême-Orient, Japon, Chine. Je vous ai mis des références recopiées sur Internet, j'espère sans trop de fautes, de publications japonaises et chinoises, dont il n'y a que la traduction en anglais ou la traduction phonétique en anglais sur Internet. Quelques cas observés aux États-Unis, mais aussi quelques publications en espagnol, une ou deux en français. La publication Henri Mondor, c'est la 1, 2, 3, 4, 5e de ma liste, mais ma liste est une petite sélection sur ce que j'ai trouvé. C'est Guérardi, Baudrimont, etc. Donc, quelques cas ont été répertoriés en Amérique du Sud, en Espagne. Il y a quelques cas européens, des cas américains, des cas extrême-orientaux. Et d'une année sur l'autre, il y a une sorte de stagnation de ce syndrome qui n'arrive pas, semble-t-il, à se constituer en entité diagnostique solide. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entité diagnostique solide ? D'abord, le nom du syndrome varie un petit peu d'une publication à l'autre. On l'appelle aussi syndrome de Takatsuki, On trouve également, c'est dans la liste des publications, syndrome de Krauss-Fucase. Hein. L'énumération des signes est constante, mais cette énumération des signes qui est toujours reprise dans les publications montre que les auteurs des publications ne voient pas clairement le lien entre les différents signes recensés qui font la constellation syndromique. Dans les publications les plus récentes, la tendance est à classer le syndrome POEMS dans les myélomes, c'est-à-dire dans les maladies du type de la maladie de Kahler. C'est en particulier la tendance affirmée par un article espagnol et par l'un des articles en anglais, disent qu'il n'y a pas de différence entre le POEMS syndrome et l'une ou l'autre forme de myélome, qui sont des maladies cancéreuses. D'autres auteurs s'opposent absolument à l'identification de ce syndrome avec une maladie cancéreuse, et il y a des arguments dans les deux sens. Un article reporte que dans un cas de syndrome POEMS, on a identifié dans un os une lésion sclérotique, on a irradié la lésion et le syndrome POEMS s'est atténué. Donc on n'a pas eu une guérison véritable, mais un effet sur le syndrome en traitant une lésion de type cancéreux. Mais ce fait n'est pas reproduit de façon régulière, et dans d'autres cas, on affirme que les traitements du cancer sont déplacés. Ne sont pas d'actualité. Le syndrome POEMS, d'après ce que j'ai contrôlé, n'a pas encore émergé dans la classification internationale des maladies, bien qu'on en parle dans la littérature depuis avant l'avant-dernière révision. Ni dans la classification internationale des maladies numéro 9, ni dans la classification internationale numéro 10, on ne retrouve ce syndrome dans les rubriques de la classification internationale. Il y a donc à ce jour incertitude sur la réalité du type de maladie dont il s'agit. On pense que c'est une entité diagnostique, il y a un certain nombre de publications qui étayent cette possibilité, mais pas de certitude. Il est intéressant de contraster cette situation avec celle du sida. Le mot sida, comme le mot POEMS, est un sigle, SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. Son caractère descriptif reflète la situation initiale qui était une situation où on a baptisé ce dont les personnes étaient affectées du nom des symptômes qu'elles présentaient. C'est une énumération de symptômes. Cependant, dans le cas du sida, et je vous ai documenté la chose par une liste de publications qui couvre les années 1981 à 1984, en fait. Dans le cas du sida, alors que en 1981, ni le nom ni la notion ne sont présentes, on a en 1981, dans les signalements du Centers for Disease Control, c'est-à-dire des centres pour le contrôle des maladies d'Atlanta aux États-Unis, qui sont le centre de veille sur les maladies qui apparaissent, en 1981, On a un signalement dans les CDC d'Atlanta de la pneumonie à pneumocyste à Los Angeles. On sait maintenant que la pneumonie à pneumocyste est l'une des maladies infectieuses qui, au début au moins de l'épidémie de sida, a été le plus fréquente chez les personnes atteintes par le virus de l'immunodéficience humaine. Donc, signalement de la pneumonie, signalement de sarcome de Kaposi allant avec la pneumonie à pneumocyste, c'est ma seconde référence, chez des hommes homosexuels à New York et en Californie. Donc, on repère une constellation qui est faite d'une maladie infectieuse, une maladie cancéreuse et le fait que les personnes atteintes soient des homosexuels. En 1981 encore, la publication de Gottlieb dans le New England Journal of Medicine, qui est le grand journal de médecine interne mondialement lu, la publication de Gottlieb fait le point sur ce quelque chose qui est en train d'émerger et regroupe la pneumonie à pneumocyste, la candidose chez des hommes homosexuels et identifie la déficience immunitaire, la déficience de l'immunité cellulaire. Mais la maladie n'a pas encore de nom. Ça, c'est la fin de l'année 81. En 82, les centres du contrôle de la maladie d'Atlanta signale une lymphadénopathie, c'est-à-dire une maladie, quelque chose qui se manifeste par l'apparition de ganglions un peu partout sur le corps et qui persiste chez des hommes homosexuels. En 1982 encore, la notion et le sigle apparaissent, mais on n'a encore pas d'idée, c'est encore une notion et un sigle qui ont une valeur symptomatique. Ce sont des gens dont l'immunité est défectueuse et qui font des maladies liées à cette baisse de leur fonction immunitaire. Dès 1982, les CDC d'Atlanta signalent que ce n'est pas seulement chez les hommes homosexuels, mais aussi possiblement une déficience immunitaire acquise par la transfusion sanguine. Jusque-là, on parlait du gay cancer pour le syndrome de Kaposi ou des maladies des homosexuels. Ce n'est plus une maladie des homosexuels. C'est aussi une maladie des transfusés. La même année, en 82, je n'ai pas donné la référence parce que j'avais plus de place. On signale que c'est une maladie des hémophiles qui utilisent des produits sanguins. L'année suivante, M. Gallo, dont vous savez qu'on a dit qu'il avait piqué son résultat, M. Montagnier, M. Gallo, avec son équipe, publie un article dans Science, c'est-à-dire le grand magazine nord-américain où les nouveautés scientifiques émergent, et il parle d'un virus qui infecte des cellules T, c'est-à-dire des cellules immunitaires humaines. L'année suivante, vous avez la publication de Montagnier, où cette fois, il est question de rétrovirus. Rétrovirus isolé de malades qui présentent cette lymphadénopathie avec le syndrome d'immunodéficience acquise. Et 3 ans plus tard, Gallo et Montagnier ensemble, dans le magazine anglais Nature, publient ce qu'ils appellent la chronologie de la recherche sur le sida. Vous remarquez que cette fois, le sigle est tout seul, il n'a plus besoin d'être explicité. Tout le monde sait ce que c'est que AIDS, tout le monde sait ce que c'est que le sida. Le temps d'apparition, le temps d'émergence de cette maladie est, rétrospectivement, sur le moment, ça a paru une éternité aux personnes atteintes, hein, mais rétrospectivement, on se dit que la rapidité de la recherche est extraordinaire. En 3-4 ans, des signes, un syndrome qui émerge, un nom du syndrome et la cause du syndrome, la cause virale, le rétrovirus isolé. Il n'y a pas de doute pour nous aujourd'hui que le sida est une entité diagnostique ou un type de maladie, et il me reste, dans les quelques minutes avant que je m'arrête, à insister un peu sur cette notion d'un type qui émerge ou d'une entité qui émerge. J'ai mis en exergue au document une citation de Cournot au début et une citation de Cournot à la fin. Cournot est l'un des philosophes des sciences qui a le mieux explicité la notion de type et réfléchi aux différences, aux nuances de vocabulaire qu'il y a lorsqu'on emploie les termes classe, genre, espèce, type. Ma première citation, les deux citations sont extraites du même ouvrage, mais on retrouve des considérations du même genre dans d'autres ouvrages de Cournot. Ma première citation, extraite du traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire. La première dit: la ressemblance des exemplaires entre eux provient de leur ressemblance à un type ou à un modèle commun. Comment est-ce qu'on individualise un type de maladie nouveau? Il semble que la première étape soit le repérage d'analogie entre des cas observés. Mais les premières publications concernant le pauvre ont trait à 2 cas, 3 cas, un très petit nombre de cas. Comment peut-on, sur un tout petit nombre de cas, et le syndrome étant aussi flou, aussi complexe, aussi embrouillé, évoquant toutes sortes de diagnostics différents, comment peut-on se dire il y a là un type? Et que signifie un type? Dire qu'il y a un type, c'est dire que le syndrome n'est pas juste une addition de signes différents, mais que le syndrome possède une unité. D'où vient cette unité? Dans le cas du sida, il est clair que la découverte du rétrovirus, qui est la cause de la maladie, encore que certains en doutent encore, la découverte du rétrovirus a conforté les chercheurs dans la certitude qu'il s'agit d'un type de maladie bien délimité. Toutefois, le type a été identifié avant qu'on découvre la cause. Donc on ne peut pas donner à la découverte de la cause un rôle aussi décisif qu'on voudrait. On a identifié le type avant d'avoir repéré la cause. Et pendant un certain temps, vous vous souvenez que M. Montagnier lui-même pensait que peut-être, bien qu'il y ait un rétrovirus, il pouvait y avoir un rôle des mycoplasmes, mais on n'était pas absolument sûr que le rétrovirus était décisif dans l'apparition du sida. Donc, on a erré dans l'identification de la cause après avoir fait émerger l'entité. Qu'est-ce qui fait que l'entité, dans ce cas, qui est une entité composite, une entité complexe, qu'est-ce qui fait que l'entité a pris comme une entité, alors que dans le cas du Poems syndrome, l'entité a du mal à prendre comme une entité. Elle reste composite et peut-être pas une. Dans le cas du sida, il semble que ce qui a déterminé la coagulation des différents signes en une entité, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de commun aux maladies infectieuses, aux maladies cancéreuses, etc., dont sont atteintes les personnes qui présentaient. C'est la baisse de l'immunité. La notion d'un élément commun qui n'est pas la cause, mais qui est un effet de la cause, on le sait maintenant, si je puis dire. On ne dispose pas de cela dans le Poems, bien que certains croient disposer de cela, puisque certains croient que le Poems est un syndrome cancéreux ou un syndrome paranéoplasique, c'est-à-dire que l'idée directrice qui permet de regrouper, de donner un sens à l'ensemble composite des signes, c'est l'idée que c'est un cancer. Et on connaît les cellules qui prolifèrent, c'est les plasmocytes, et on sait qu'elles vont se mettre dans les os. Donc, on a cru avoir l'idée directrice dans le cas du poème, et cependant, ça n'a pas coagulé. Alors, Cournot dit aussi que la ressemblance des exemplaires entre eux n'est pas l'élément déterminant, c'est-à-dire que ce n'est pas l'analogie entre les cas qui fait que l'entité prend, mais que c'est leur ressemblance à un modèle commun, un type commun. Or, ce type commun n'existe pas. Je veux dire, ce type commun est une idée du type. C'est une idée générale de ce qu'est un sida, ou une idée générale de ce qu'est le Poems. Je vous ai donné la description du type Poems, mais cette description est une description générique, et lorsque vous aurez un cas particulier de Poems, il manquera certains éléments du type, et d'autres seront au contraire très accentués. Donc, les cas particuliers ressemblent au type, mais on se fait un type général par rapport auquel on raisonne. Et la dernière phrase de Cournot nous indique quelle est l'oscillation qui se produit lorsqu'on isole un type. Je lis le dernier passage de Cournot. En considérant que nos idées humaines sont autant d'exemplaires de type extérieur à l'entendement, de grands philosophes ont été conduits à supposer que ces objets mêmes extérieurs à l'entendement pourraient bien être que les exemplaires d'un type supérieur qu'ils ont comparés à nos idées. Autrement dit, ça vous rend platonicien, l'idée du type. Ce passage-là de Cournot nous suggère quelque chose qui me paraît important épistémologiquement, c'est que lorsqu'on dégage le type, par exemple le type du poème, c'est tel que je voulais dégager, on entend bien qu'il s'agit là d'un type naturel de maladie qui existe dans la réalité, mais qui n'est pleinement représenté dans aucun cas particulier. C'est un type réel, Mais les cas réels qu'on observe ne sont que des exemplaires imparfaits, des exemplifications imparfaites de ce type. Donc un type réel ou naturel qui n'est jamais réalisé complètement, on a tendance à le rendre analogue à une idée. Et comme c'est une idée qui n'est pas seulement dans notre tête, mais dont nous, par un acte de foi, nous disons qu'il est dans la nature, hein, c'est une maladie dans la nature, alors vous devenez platonicien, il s'agit d'un type platonicien. Hein. Je vais m'arrêter là, et nous allons à la leçon de M. Descola, si vous le souhaitez.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.